Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute notre équipe, comme chaque jour, Perrine Suquet. Margot Agnès aussi, je la cherchais mais elle est là, et c'est Marc Bisset qui est à la technique de l'heure du crime avec à la une cette question: l'enfance des criminels peut-elle tout expliquer? Certainement pas, bien sûr, pour ça qu'on a formulé la question comme ça, mais l'enfance des criminels peut certainement donner un certain nombre de clés pour mieux comprendre comment l'enfance, les relations familiales, le chaos souvent de la vie de ces criminels qu'on découvre au cours des procès d'assises a pu jouer un rôle non négligeable, en tout cas dans leur basculement dans le crime. Et on est bien d'accord tous ensemble qu'il n'y a pas de criminel né. Vous ne me direz pas le contraire, Agnès Grossman, bonjour.
Bonjour Jacques.
Vous êtes journaliste de presse écrite et de télévision, spécialiste de la psychologie criminelle. Vous avez dressé pour l'émission « Faites entrer l'accusé » plus de 15 portraits de tueurs en série ces dernières années. Et vous aviez réuni les conclusions d'une longue enquête, donc une longue plongée dans les dossiers criminels, dans la relecture de tous les rapports d'expertise psychiatrique, des rencontres avec des enquêteurs, parfois des familles. Vous avez publié les résultats de cette enquête passionnante dans un livre, L'enfance des criminels. Alors, bien sûr, vous passez en revue Marc Dutroux, Patrice Allègre, Émile Louis, Guy Georges et d'autres. Et nous allons nous arrêter ensemble, par ordre alphabétique, comme dans votre livre, sur l'enfance et l'histoire intime de Patrice Allègre, et puis ensuite celle de Francis Holm. On peut dire un mot là-dessus, parce que vous suiviez son procès qui est interrompu pour l'instant,
qui va reprendre. Hein, trois jours, qui d'ailleurs pas tellement été le sien, puisque l'attention s'est très vite détournée sur Henri Leclerc. Curieusement, j'avoue que je fais partie des observateurs qui ont été choqués, parce que je trouve que la porte Henri Leclerc aurait dû être bien ouverte ou bien fermée avant cette ouverture de procès qu'on attendait quand même, et surtout les parents des victimes, depuis très longtemps.
Bien sûr, mais enfin le procès reprendra un jour ou l'autre quand cette information...
Oui, mais pas avant 18 mois.
Pas avant 18 mois, voilà. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que l'enfance des criminels, vous l'avez publié chez Hors Collection, et ce livre vient d'être publié à nouveau en édition de poche chez Point Crime, ce qui lui donne donc une actualité sur laquelle nous avons tout de suite sauté. Avant de découvrir ces points communs qui peuvent exister entre les tueurs en série par le biais de leur rapport, par exemple, avec leur mère ou leur père ou leur proche. J'aimerais bien que vous fassiez une mise au point, parce que je sais que les auditeurs se la font à chaque fois. Ça agace un certain nombre de gens de dire « Ah oui, mais alors, on va essayer de comprendre, d'excuser des gens terribles qui ont tué des dizaines de victimes sans aucun sentiment de regret ni de remords. » Évidemment, ça n'est pas une enquête pour les excuser.
Mais non, et puis de toute façon, comprendre, ce n'est pas excuser. Et puis si on essaye de comprendre, c'est parce que je crois qu'on est très touché justement par le sort des victimes. Moi, c'est parce que j'étais horrifiée par le sort des victimes que je souhaite que cela n'arrive plus, que j'ai voulu comprendre pourquoi quelqu'un tuait en arrivait à faire ce genre de choses horribles. Évidemment, on s'interroge moins sur les victimes parce que le comportement de la victime n'interroge pas. La victime a un comportement normal, elle n'a pas eu juste la chance de... Enfin, elle a eu la malchance plutôt de croiser un tueur. Voilà, mauvais moment, mauvais endroit... voilà. Ouais. Alors que c'est vrai que le crime interroge. Qu'est-ce qui fait que parmi nous, des êtres humains tuent ? Et je pense que c'est une interrogation, mais ça vise en aucun cas à les excuser. Mm-hmm. Si dans l'idéal, ça pouvait aider à éviter qu'il y ait plus de tueurs ou à éviter que des criminels soient éduqués de façon à devenir des criminels, parce que c'est un peu ça quand même.
Oui, parce qu'on se dit évidemment, c'est toujours plus facile après coup, de se poser les bonnes questions, mais on se dit, mais comment se fait-il que personne n'ait tiré le signal d'alarme? Comment se fait-il que cette situation n'ait pas été signalée? Comment se fait-il que la justice n'ait rien fait à ce moment-là? À l'inverse, il faut quand même préciser, je reste toujours sur la même idée, qu'il y a des tas de gens qui ont des enfances difficiles, qui sont maltraités, battus, dont l'enfance est un véritable calvaire, et qui ne sont pas devenus des criminels.
Mais évidemment, tous les gens qui ont des enfances maltraitées ne deviennent pas des criminels, il y en a même qui deviennent des grands artistes. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que tous les tueurs en série, donc des grands criminels, c'est des gens pour qui le crime fait partie de leur expression de vie.
Donc on est Fournier, Allègre, voilà. Émile Louis,
et même les Américains, et même dans tous les pays, tous les tueurs en série ont eu une enfance catastrophique. Mmh. Voilà. Le contraire n'est pas vrai, mais dans ce sens-là, c'est une règle.
Vous citez dans votre livre, d'ailleurs, une phrase de Robert Badinter, qui dit c'est pas inutile de se pencher sur l'enfance des criminels, parce que au moins on se penche sur un moment de leur vie où ils n'étaient pas des criminels. Ça, c'est pour le fait, c'est les fameux titres à la une, hein, bon, que nous avons tous employés de toute façon, en qualifiant de monstre quelqu'un dont on n'arrive pas à trouver les bons adjectifs pour décrire ce qu'il a fait, quoi.
Mais c'est vrai que peut-être en étudiant la façon dont les gens se construisent, parce que moi, en travaillant pour Faites Entrer l'Accusé, j'ai tellement été frappée par cette réminiscence de criminels qui avaient des enfances dramatiques et catastrophiques et très violentes, c'est tous des enfants très maltraités, que j'ai compris qu'un être humain, ça se construisait. Et si justement on peut repérer ça, peut-être qu'on va pouvoir mettre en place dans le système éducatif, peut-être des moyens de repérer les gens qui sont en général des enfants maltraités, et peut-être d'agir, et peut-être dans l'avenir d'éviter et de restreindre la criminalité.
Avant qu'il ne soit trop tard et qu'on se pose la question et qu'on la pose en général aux experts psychiatres sur la dangerosité potentielle de quelqu'un dont on sait qu'il a déjà tué 7 ou 8 personnes, y a-t-il un risque de récidive, docteur ? Bon, c'est quand même un peu compliqué. Encore un mot, Agnès Grossman, sur la manière dont vous avez travaillé. Quand je dis plonger dans les dossiers d'instruction, souvent ça fait des mètres cubes, hein, les dossiers d'instruction.
Ça fait des mètres cubes. Alors j'ai plongé... Alors, en général, je connaissais bien les affaires, puisqu'encore une fois, j'ai travaillé longtemps pour Faites Entrer l'Accusé. Et en général, on plonge dans l'affaire, on connaît très bien les affaires, on rencontre tous les protagonistes de l'affaire. Mais quand je dis j'ai travaillé beaucoup sur le dossier, c'est que j'ai repris, que j'ai épluché les dossiers psychiatriques, psychologiques, les enquêtes de personnalité, et tous les témoignages des proches. Donc j'ai reconstitué une enfance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que eux-mêmes, les tueurs, racontent de leur enfance. Mmh. Alors bien sûr, après, il faut le recontextualiser.
Personne n'est là pour les contredire, évidemment.
Mais c'est vrai que c'est comme vous, avec vos proches, vos amis. Il y a souvent des choses de votre enfance, ça vous revient toujours. Et vous mâchez. Ouais. Et ça passe pas. Ben, eux, c'est la même chose. Sauf qu'en général, c'est des beaucoup plus gros morceaux qu'ils n'ont pas réussi à avaler et qui éclatent. Et qui les rend dangereux.
Alors voilà, c'est un constat, évidemment. Il n'y a pas d'explication par A plus B. Il n'y a pas d'équation magique pour être sûr que si quelqu'un se trouve dans telle situation, il va devenir un tueur. Mais je pense à Patrice Allègre, puisqu'on va commencer dans quelques instants, après une pause, à parler de Patrice Allègre. On y reviendra ensemble. Les rapports à la mère et la haine du père ont certainement joué ce rôle de mauvaise madeleine, si j'ose dire, hein, dont vous parliez à l'instant. Alors donc, dans un instant, on se penche sur le cas de cet homme dont l'image d'ailleurs est toujours présente dans toutes nos mémoires, 1m80, des yeux clairs, une espèce de houppette un peu étrange au sommet d'un crâne rasé. Il a été arrêté en 1997 à l'âge de 29 ans, il en a aujourd'hui 44, et on va rappeler dans quelles circonstances a été mis fin à son odyssée sanglante.
Et l'heure du crime sur RTL.
Nous sommes à la fin du mois de juin 1997, dans une station balnéaire de la Costa Blanca, près de la ville d'Alicante, en Espagne. C'est la période des vacances. Isabelle et Valérie, deux copines parisiennes, logent depuis près de 2 semaines dans un camping, le camping de Guardamar. Un soir, à la buvette de ce camping, elles sont abordées par un beau garçon, on va dire, aux yeux clairs. Il se présente, Patrice, il est célibataire, il arrive de Toulouse, il dit qu'il est disc jockey dans des boîtes de nuit. Les trois jeunes gens sympathisent, ils vont dîner au restaurant, ils dorment à la Belle Étoile sur la plage, et puis ils passent encore une journée et une nuit ensemble à rire, à se raconter leur vie, à faire la fête. Pour Isabelle et Valérie, qui sont employées à la SNCF, les vacances sont en train de se terminer. Elles doivent reprendre le train le 30 juin pour la France. Et Patrice leur explique qu'il compte poursuivre, lui, de son côté, ses propres vacances pendant un bon mois. Mais il promet qu'avant de rentrer chez lui à Toulouse, il passera voir ses nouvelles amies à Paris. 2 mois plus tard, le 4 septembre 1997, à 13h15, la police est appelée au 16 de la rue Jacques-Baudry, dans le 15e arrondissement de Paris. Un incendie vient de se déclarer dans un studio du 2e étage de l'immeuble. En pénétrant dans l'appartement en fumée, les enquêteurs, appelés par les pompiers très vite, tombent sur le cadavre nu et partiellement brûlé d'une jeune femme. L'autopsie, pratiquée dans la journée, révèle que la victime est morte par strangulation. Son visage a été roué de coups. Son corps a subi des violences sexuelles. La défunte se nomme Isabelle. Isabelle Chichery. Elle avait 29 ans. Ses dernières vacances, elle les avait passées avec son amie Valérie au camping de Guardamar, en Espagne. L'enquête de voisinage permet tout de suite d'établir que la jeune femme qui habitait seule et qui menait une existence rangée hébergeait depuis 48 heures un homme de 25-30 ans s'exprimant, disent les voisins, avec un fort accent du sud-ouest. Une fois le portrait robot réalisé, un rapprochement est fait par les enquêteurs avec un certain Patrice Allègre, 29 ans, en cavale depuis près de 7 mois. En effet, depuis le 21 février précédent, celui-ci est suspecté d'avoir violé et tenté d'étrangler une jeune fille, Émilie, une jeune fille habitant dans la région de Toulouse, et elle avait porté plainte contre lui. Grâce à des écoutes téléphoniques, il avait été récemment localisé dans la capitale, d'où il avait passé plusieurs coups de fil. Patrice Allègre est appréhendé dès le lendemain chez un couple de ses amis qui habitent Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Lors de sa garde à vue, il avoue le meurtre d'Isabelle Chichery sur un ton froid et détaché. Il raconte pourquoi il s'est déchaîné contre elle. Selon ses déclarations, donc, aux enquêteurs, il avait rejoint la jeune femme à Paris dès son retour d'Espagne. Il avait déjà dormi deux nuits chez elle. Jusque-là, dit-il, tout s'était passé en douceur, mais il aurait soudain été pris d'une pulsion, il emploie le mot, d'une pulsion irrésistible. Devant le refus d'Isabelle de céder à ses avances, il se serait énervé, encore un mot de son vocabulaire. On apprendra plus tard que ce refus avait effectivement déclenché sa fureur meurtrière. Patrice Allègre ne supportait pas qu'on se refuse à lui. Alors il fallait rappeler cette histoire, Agnès Grossmann, parce que c'est dans ces circonstances que Patrice Allègre a été arrêté. Puis alors après, il y a eu toute une série de découvertes, des enquêteurs, puisque au total, lorsque son jugement aura lieu le 21 février 2002 devant les assises de Haute-Garonne à Toulouse, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans pour 6 viols et 5 crimes qu'il a reconnus. Et ce qui frappe les enquêteurs, c'est que ces meurtres se sont déroulés en deux temps, séparés par une période de 7 ans.
Oui, absolument. Mais c'est ce que lui dit. Mmh. Les enquêteurs en sont pas persuadés. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à le coincer. Effectivement, oui, sur 7 ans, ils n'ont rien réussi à prouver.
Il s'étonne qu'en 7 ans, il n'ait pas récidivé, quoi, en fait. Évidemment, sa personnalité, elle va être connue du grand public à travers ce que vont en dire les uns et les autres, les experts, les familles, les enquêteurs, au cours du procès. Vous, quand vous avez mené l'enquête sur Patrice Allègre, sur quel fil avez-vous tiré ?
D'abord, ce qui est étonnant avec Patrice Allègre, c'est qu'il est très lucide sur lui-même, sur son enfance. Il est très à l'écoute d'explications. Il veut comprendre ce qui lui est arrivé. Il a deux parents. Il a une mère qu'il adore et il a un père qu'il déteste. Et il a une mère qu'il adore, qui est une femme volage, qui a une vie sexuelle extrêmement débridée, qu'elle vit assez facilement devant son fils.
Mmh. Son père, pardonnez-moi, est CRS, hein, et donc souvent absent de la maison. Quoi.
Son père est souvent absent de la maison, il revient souvent brutalement, sa femme le trompe, il le sait plus ou moins, il bat sa femme souffre d'alcoolisme, donc la mère de Patrice. Mmh. C'est une femme qui est elle-même une enfant de la DAS. C'est une femme qui a eu elle-même une enfance malheureuse et qui n'a aucune règle de vie, ni pour elle, ni pour son fils.
Ouais. Et lui, le petit garçon, hein, puisque ça commence évidemment très tôt dans sa vie, il voit donc un certain nombre d'hommes défiler à la fois dans la vie de sa mère et dans sa vie à lui, puisque certains viennent là, chez lui, à la maison. C'est quoi pour lui ces hommes ?
Alors, il les appelle des copains. En fait, il est complice de sa mère parce qu'il adore sa mère et qu'il veut la protéger. En fait, il a toujours beaucoup protégé sa mère. Le contraire n'est malheureusement pas vrai. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il entend sa mère faire l'amour à côté de lui, enfin dans la chambre à côté. Il l'entend gémir. Et il se cache la tête sous l'oreiller. Il souffre beaucoup de ça. Il la verra même, alors qu'il a 6 ans, faire une fellation à un homme. Et il en pleurera. Il en pleurera même des années après en racontant ça à un copain. Oui. Et en fait, dans sa façon de tuer, les psychiatres pensent qu'il faisait gémir les femmes, malheureusement, de douleur.
Oui.
Mais qu'il les étranglait en général au moment, justement, où elles commençaient à gémir, pour étouffer ces gémissements. Et les psychiatres pensent vraiment que Patrice Allègre a commis des crimes qui sont des matricides déplacés. C'est-à-dire qu'il a dû souffrir énormément de la situation que lui imposait sa mère.
Oui. Parce qu'il ne peut pas lui vouloir de mal parce qu'il l'idolâtre.
Il l'aime
et quelque
trop.
Part...
Il l'aime tellement qu'en fait, il a dû énormément souffrir de son comportement, surtout qu'elle ne le protégeait pas vis-à-vis du père qui le battait, qui le traitait très mal, et qu'en plus c'était une mère inconsciente, elle l'a pas éduqué. Quand il avait pas envie d'aller à l'école, elle disait si, vas-y, et quand il disait oh mais oui, mais moi si je reste à la maison je fais le ménage si tu veux, mm-hmm. Et ben elle disait bah oui, reste. Donc elle l'éduquait pas du tout, et on pense qu'il a dû énormément souffrir, donc avoir une rage en lui contre sa mère, mais que cette rage il ne pouvait pas la formuler parce mm-hmm. qu'il aimait trop sa mère, mm-hmm. donc elle reste enfouie en lui. Mais elle va se déclencher contre d'autres femmes, mmh. dans des situations qui lui rappellent sa mère. Et tous les crimes qu'il a commis étaient des situations où il était dans un contexte festif, mmh. avec des femmes un peu légères, mmh. comme sa mère.
Alors, on va revenir hein, sur tout cela en détail, bien sûr, les rapports avec la mère, les rapports avec le père aussi. Et je disais, il y a un petit instant, que c'est évidemment à l'occasion des procès, en général, que s'expriment les témoignages sur la personnalité qu'on essaye de comprendre. Et encore une fois, pas d'excuser, mais de comprendre qui on juge, finalement. Alors, évidemment, vous avez les rapports de psychiatre. Il faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent qu'au cours d'un procès en cour d'assises, les jurés n'ont pas le dossier. Il y a le président, hein, je crois, et l'accusateur public qui connaissent le dossier.
Oui.
Mais une personne est jugée sur ce qui se dit pendant le procès. Et on va écouter un premier document RTL, que je voudrais qu'on écoute tout de suite. Il date de la veille de l'ouverture du procès, le 10 février 2002. Et notre correspondant dans la région de Toulouse, Patrick Tégéraud, dresse pour RTL le portrait donc de ce garçon qui va être jugé pour toute une série de viols et de meurtres.
Il a du succès avec les filles, mais quand elles ne lui cèdent pas, il les viole, les étrangle et martyrise leur corps. Pour Patrice Allègre, une fille qui lui plaît, c'est une chose, sa chose. Les psychiatres le traitent de prédateur urbain. Il a eu au moins 6 proies, Valérie, Martine, Laure, Mireille et Isabelle. Seule Émilie a survécu et l'a dénoncée, permettant ainsi son arrestation. Les gendarmes pensent que cette liste est loin d'être exhaustive. Allègre a beau être abruti par la drogue et l'alcool au moment des faits, il dégrise vite pour faire disparaître les corps, maquiller ses crimes en suicide et voler tout ce qui peut se négocier. Depuis qu'il a été arrêté il y a 4 ans et demi, il est à l'isolement. Pour sa sécurité, ses co-détenus l'ont menacé plusieurs fois. Sa grand-mère lui rendait visite, mais elle est décédée il y a presque un an. Seul son avocat reste en contact, ou du moins tente de le rester, car à chaque entrevue, il faut reconquérir la confiance de cette bombe à retardement qui n'a plus de minuterie. La grande inconnue, ce sera donc son comportement devant les jurés de la Haute-Garonne. Il y a un mois, le président du tribunal a voulu le rencontrer. Cela n'a duré que quelques secondes. Votre justice, a-t-il dit, j'en ai rien à foutre.
Patrick Tégéraud sur RTL. On réécoutera tout à l'heure d'autres documents de Patrick Tégéraud, puisqu'il avait suivi à l'époque le procès pour RTL. On va se pencher avec Agnès Grossman, qui est mon invitée, sur l'histoire de la vie de Patrice Allègre, pour essayer de reconstituer quelques-unes des pièces du puzzle dans un instant, après cette pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et nous sommes en compagnie d'Agnès Grossman, mon invitée. Elle est journaliste. Elle a, entre autres, travaillé pour beaucoup pour l'émission de télévision Faites entrer l'accusé. Mais on en parlait hors micro. Vous suivez le procès de Jamel Lemli en ce moment pour Le Figaro.
C'est un grand moment, oui.
Voilà. Dans 18 mois, vous serez là, évidemment, pour la suite du suspense sur le procès de Francis Holm, dont nous parlerons tout à l'heure, parce qu'on va se pencher aussi sur l'enfance de Francis Holm. Mais pour l'instant, on parle de Patrice Allègre. Alors, On a entendu tout à l'heure le papier, le portrait que dressait Patrick Tegero la veille de l'ouverture du procès. Les rapports avec son père et sa mère vont être évoqués dès le deuxième jour, dès le lendemain de l'ouverture du procès. Nous sommes le 12 février 2002 et là, vraiment, on peut dire que les jurés et tous ceux qui assistent, le public, vont pouvoir mesurer la véritable haine que vous, le tueur en série, à son père, Patrice Tegero, suit donc le procès pour RTL. Et voici son compte-rendu de cette deuxième audience.
Je voudrais simplement lui dire que je l'aime. C'est ainsi que le père d'Allègre termine son témoignage. Patrice Allègre se lève et lance terrible. Il ment, comme d'habitude. Je regrette une seule chose, ne pas l'avoir tué. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait à ces gens. Le père ne bronche pas. Il vient d'expliquer que tout ce qui a été dit sur sa violence est exagéré. Il reconnaît tout de même avoir battu sa femme. Il lui reprochait la boisson et son infidélité. C'est vrai, Patrice s'interposait parfois. Lui aussi prenait des coups. Comme ce coup de rondin sur la tête un matin. Il est dans son lit turbulent. Il a à peine 11 ans. S'il déteste son père, Allègre aime sa mère. Les psychiatres disent même qu'il l'idéalise. Il a peut-être de bonnes raisons pour ça. Devant cette mère ravagée par l'alcool et la maladie, le président s'étonne. Vous saviez qu'il cambriolait le voisinage, qu'il volait des scooters, et vous nous dites que vous n'aviez pas de problème avec lui, que son père le corrigeait suffisamment. Mais il n'était jamais là, vous laissiez faire. Et elle le reconnaît. Oui, c'est vrai, j'étais laxiste. Nicolas, le petit frère de 7 ans, son cadet, n'a pas bien connu Patrice Allègre. Il est commercial aujourd'hui, tout le portrait physique de Patrice, mais lui, il aime son père, et il n'a jamais franchi les limites de la loi.
Voilà, donc il fallait ajouter cette pièce quand même encore au puzzle. Ça correspond à ce que vous avez trouvé au cours de votre enquête, en fait.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il déteste son père. Il voulait même le tuer à une époque. Il avait dit à sa mère, je vais le tuer. Et sa mère s'y opposait. Et sinon, il l'aurait fait. Et ce qui est intéressant,
c'est qu'il
dit...
Il a regretté au procès de ne pas l'avoir fait.
Voilà, s'il avait tué son père, peut-être qu'il n'aurait pas tué d'autres personnes. C'était plus complexe que ça. Mais c'est vrai qu'il souffrait de son père. Parce qu'il lui a écrit, d'ailleurs, il lui a dit, lors de son arrestation, il lui a écrit une lettre où il lui dit « Je regrette de ne pas avoir eu de père, un vrai pour jouer, rire, faire des choses, en un mot, être heureux. Mais pour cela, il faut le vouloir. Qu'avons-nous fait ensemble ?» Il dit à son père « Rien, à part que je te haïsse pour tout ce que j'ai vécu. » Et en fait, il a vécu une enfance terrible, Allègre, parce qu'effectivement, ses parents se sont beaucoup battus, et il adorait sa mère, donc il a dû beaucoup souffrir de la violence que lui imposait son père, et doit beaucoup lui en vouloir de ça. Et c'est vrai que son père n'était pas là pour lui, et ne lui a rien donné.
Il a vécu, petit enfant, des scènes quand même de films de série B, quoi. Son père, donc CRS, qui rentre d'une mission, découvre un homme dans le lit de sa femme, il va chercher son fusil, il va le tuer, donc le petit garçon est là, quoi. Et puis après, on attend un huissier pour faire un constat d'adultère.
Il va pour le tuer, il le tue pas.
Hein, il va le tuer. Voilà. Je vais à la place d'un petit garçon qui assiste à ce truc-là, il se dit, ça va être terrible. Alors, il faut dire, on disait tout à l'heure que heureusement, tous ceux qui ont vécu une enfance difficile, Agnès Gansman, n'ont pas viré comme ça. Dans la famille, il y a Nicolas, le petit frère de Patrice Allègre.
Oui, qui a peut-être eu d'abord. D'abord, c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on est éduqué de la même façon. On arrive tous à une époque de la vie des parents. On peut ressembler à l'un ou à l'autre. On n'a pas la même histoire. C'est déjà si on est un garçon ou une fille. Et puis ils ont 7 ans d'écart. C'était peut-être différent. Et puis ils avaient eu Patrice avant. Donc il a peut-être compris des choses, le père. Parce que je pense qu'il n'a pas compris. Parce que, effectivement, quand ils se rendent compte que leur enfant a des problèmes, ils font appel eux-mêmes à une éducatrice. Qui pense d'ailleurs que la cellule familiale est pathogène et qu'il faut sortir Patrice Allègre de cette cellule familiale et qu'il faut l'envoyer dans une structure où il aura un encadrement et une présence chaleureuse qu'il n'avait pas, souligne-t-elle.
Il va aller en foyer, parce qu'il va faire, toute sa vie minute par minute, mais il va faire des petits vols, des petits larcins, des petits cambriolages. Son père, en tant que policier, va arrondir les angles.
C'est ça qui est assez étonnant, c'est que ce père qui finalement veut absolument imposer sa loi à la maison, il est incapable d'imposer la loi qu'il représente pourtant dans son métier. Mais c'est un enfant qui est constamment pris entre des ambivalences. Le laxisme de sa mère, l'extrême rigidité de son père qui fait la loi, sa loi encore une fois à la maison, mais qui est incapable de respecter la loi sociale et de lui faire respecter, il est extrêmement perturbé.
Voilà, alors si on ajoute à ça l'alcool, les drogues, parce qu'il y a du shit, mais il y a aussi de la cocaïne, il y a aussi des...
Le fait qu'il soit livré à lui-même
de
aussi, parce que finalement, il n'y a personne pour le forcer à aller à l'école. l'école, donc très vite il est livré à lui-même.
Alors à 19 ans, il rencontre Cécile, qui va épouser, porte le même prénom que sa grand-mère, et ils vont avoir un enfant. Il va pas reconnaître sa fille, et Cécile va le rappeler au procès. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que ce jour-là, il était fatigué, il dormait, et donc il s'est pas levé pour aller reconnaître sa fille. Donc ça donne vraiment un tableau du personnage et de ses perturbations assez complet. Je voudrais qu'on termine cette partie de l'émission consacrée à Patrice Allègre par ce qu'on dit, alors pour le coup, puisqu'on parlait d'eux tout à l'heure, les psychiatres ou les psychologues au cours du procès. Alors évidemment, on leur demandait pas là expliquer comment tout ça était venu. On leur demandait surtout s'il y avait un risque de récidive. Écoutez...
Est-ce que je peux, pardon,
oui, je vous en prie.
Juste rajouter quelque chose, c'est que je voulais dire que quand il a été arrêté, et c'est souvent le cas des tueurs en série, il était content d'être arrêté. Enfin, il n'était pas content, chouette, tu plaboum. Il était soulagé qu'on l'arrête dans sa course meurtrière.
Y compris que c'était la seule façon d'arrêter la série, quoi.
Voilà, parce que c'était quand même pas une vie. Ouais.
Alors écoutez ce que disait à propos du risque de récidive l'avis du psychologue Alain Penin, interrogé par Patrick Tégéro pour RTL.
Depuis qu'il est en classe maternelle, Patrice Allègre est très opposant, il est complètement instable. Il a toujours été antisocial et très précocement. Donc, il est intolérant à toute forme de contrainte et à toute forme d'autorité. En plus, il utilise des produits exogènes, des toxiques, en particulier la cocaïne et l'ecstasy, qui n'est pas un produit du tout neutre, comme on veut bien nous le laisser dire, et qui réactive énormément l'agressivité et qui fait déborder les pulsions. Et il est évident qu'en l'état actuel de nos connaissances, et s'il n'évolue pas, il est dans des conditions criminologiques de récidive aujourd'hui. On ne peut envisager que de remobiliser des choses qui sont très enfouies chez lui, mais très 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 profondes, très archaïques. Donc il faudra beaucoup de temps, beaucoup de motivation, des thérapeutes qui veuillent bien s'en occuper, et ça c'est pas évident que l'on en trouve, et un minimum de demandes de sa part. C'est loin d'être le cas pour l'instant.
Patrice Allègre a été condamné donc par les assises de Haute-Garonne à Toulouse le 21 février 2002 à la réclusion criminelle à perpétuité, assurée, pardonnez-moi, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. On va faire une nouvelle pause dans l'émission. On est toujours avec Agnès Grospin. On parle toujours de cette enquête qu'elle a faite et publiée par la suite dans un livre qui est vraiment passionnant, que je vous recommande, L'enfance des criminels. Et là, dans un instant, on va s'intéresser à Francis Holm.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'heure du crime avec à la une cette question, l'enfance des criminels peut-elle expliquer en tout cas leur passage à l'acte ou le fait qu'ils se soient précipités dans cet univers de meurtre et de sang. Mon invité Agnès Grossman a mené cette enquête auprès des plus grands, des 8 plus grands criminels en série français, on peut le dire. Patrice Allègre, bien sûr, on vient d'en parler, Marc Dutroux, Michel Fourniret, Guy Georges, Émile Louis, Thierry Paulin, Mamadou Traoré, et maintenant, on va parler de Francis Holm. Francis Holm, on reparle beaucoup de lui, d'ailleurs, en ce moment, parce que il a été mis en examen pour les meurtres des petits Cyril Bénin et Alexandre Bécriche. C'est une affaire qui remonte au 28 septembre 1986 à Montigny-lès-Metz, en Moselle. Tout le monde connaît cette affaire à cause de des condamnations successives et de la révision du procès de Patrick Dils, qui était le premier à payer pour ce crime qu'il continue à clamer n'avoir jamais commis. Et puis est arrivé donc à un moment Francis Holm, désigné par un ancien gendarme qui était peut-être celui qui connaissait le mieux le dossier, Francis Holm, qui un jour, en revoyant ce que Holm lui avait dit au cours d'interrogatoire, tombe sur la description finalement de ce qui s'est passé le long de cette voie de chemin de fer en 1986. Donc du coup, Francis Holm est d'abord mis en examen, puis ensuite il y a un non-lieu, et puis un fait nouveau, et là il est à nouveau, il est passé devant la cour d'assises quoi, quelques jours, hein, en fait.
Il y a trois semaines, un petit peu plus. C'était début avril.
Voilà. Et là, voilà. Nouveau coup de théâtre, un témoignage vraiment tardif, hein, pour le coup, met en cause une autre personne, donc Henri Leclerc.
Qui était apparu pourtant dès le début du dossier, qui avait fait des aveux qu'après on n'avait pas pris au sérieux.
Voilà. Donc je voulais rappeler tout ça à ceux qui nous écoutent. Et on va revenir donc évidemment sur le parcours de celui qu'on a appelé le routard du crime. Et il faut dire que l'existence de la série criminelle de Francis Saulme était revenue à la une à l'occasion de l'ouverture de son premier procès. C'était devant les assises du Finistère en janvier 1994. Et à cette occasion, sur RTL, dans RTL Matin d'ailleurs, Yves Roger rappelait les faits qui lui étaient reprochés.
Francis Saulme me répond du meurtre d'une aide-soignante de 49 ans, Aline Pérez, retrouvée poignardée en plein jour sur une plage de Brest le 14 mai 89. Mais ce n'est que 3 ans plus tard qu'il sera arrêté grâce à l'enquête d'un gendarme qui n'a jamais voulu lâcher prise. Et peu à peu, on en a déduit que Francis Saulme, entre 86 et 91, avait peut-être commis d'autres crimes. À l'heure actuelle, on lui en impute 6. Et on se demande encore si la liste n'est pas plus longue. Cet homme grand, maigre, 1m90, très marqué par la mort de sa mère il y a 10 ans, aurait ensanglanté l'hexagone au rythme de ses errances de sans domicile fixe. Il apparaît comme une sorte de tueur pathologique qui agirait, on ne sait trop pourquoi, poussé par des pulsions incontrôlables. Sur les 6 crimes qu'on lui attribue, il n'en reconnaît qu'un, celui d'une jeune femme qu'il avait prise en autostop près de Reims. Pour les autres, il les a tous avoués, puis il s'est rétracté. Tout à l'heure à Quimper, c'est son premier procès.
Alors, Agnès Grossman, évidemment, on a beaucoup écrit, hein, centaines, des milliers d'articles et des livres et des séries de télévision sur Francis Saulme. Certains psychiatres l'ont décrit comme diaboliquement intelligent et d'autres comme quasiment un débile profond.
Diaboliquement intelligent, il n'est pas. Débile profond non plus. Il est intelligent, c'est pas un intellectuel, si vous voulez. Mais c'est Francis Saulme, c'est quand même quelqu'un, par exemple, qui se déplaçait beaucoup en stop. Mm-hmm. Et on le prenait en stop. Et les gens parlaient agréablement avec lui en stop. Mm. Et c'était quelqu'un qui savait très bien aller vers qui pour avoir ce qu'il voulait. C'est pas quelqu'un c'est pas un intellectuel, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus un débile mental. Mais ça a été un des axes de sa défense de le faire passer aussi pour débile mental. Mais bon, c'est pas non plus.
Alors, si on se penche sur son enfance, on va commencer à le faire avant la pause. Fils d'un alcoolique, on peut dire violent et volage, hein, comme on dit, et fils aussi d'une mère qui l'idolâtre et qui va mourir d'un cancer le 16 octobre 1984. Il a 25 ans et c'est la fin du monde pour lui.
C'est la fin du monde. Pour lui, son monde a explosé. Ça a fait boum dans ma tête, là, il dit. Et c'est d'autant plus la fin du monde que c'est, si vous voulez, il a 25 ans, sa sœur est un petit peu plus jeune, mais elle a 18 ans à ce moment-là. Ses parents sont divorcés. Donc quand sa mère meurt, il vivait avec elle. Il va se retrouver seul finalement. Sa sœur part assez vite s'installer avec un homme. Son père part avec une autre femme. Et il va se retrouver seul et ça va être assez vite le départ sur les routes.
Oui, parce que en fait, en 8 ans, il aura traversé 37 départements. Et comme il ne conduit pas, comme vous l'avez dit, il fait du stop ou il emprunte des vélos.
Il
adore faire du vélo.
Il adore le vélo.
Et souvent, il met son vélo dans le train. Et il va, une autre caractéristique, alors je ne sais pas si ça s'éclaire par son enfance ou son adolescence, mais souvent il n'est pas seul, il entraîne des complices dans ses crimes qui tuent pour lui, presque, on pourrait
alors,
dire.
C'est lui qui tue.
Voilà. Qui viole pour lui et lui ouais, tue, c'est
absolument,
ça.
Absolument, parce que ouais. Francis Saulme a une maladie Klinefelter, qui est une maladie. Alors, il a un chromosome. C'est une maladie génétique. Alors, je me souviens plus bien pour tout vous dire. Il a un chromosome en plus ou en moins.
D'accord.
Et ce qui lui trouble complètement l'identité sexuelle, y compris physiquement. Ça veut dire qu'il a un petit ventre rond comme les femmes. Il a des hanches rondes comme les femmes. Il a un petit peu de sein.
Oui.
Et il a des testicules minuscules et un sexe minuscule.
Ouais. Et il a eu très peu d'expérience. On parlait de son enfance, d'expérience sexuelle.
Une
vers 15 ans.
On ne sait pas trop de quelle nature exactement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il a pu vraiment assumer. Enfin, il est impuissant, en gros, Francis Saulme.
Ouais.
Et d'ailleurs, à noter que celui qui s'est rendu compte de cette maladie, c'est le psychiatre Masson, quand il est arrêté déjà. Ça veut dire que les parents n'avaient même pas regardé assez leur enfant.
Personne ne savait.
Pour se rendre compte de cette malformation. C'est pour vous dire que Francis Holm, lui aussi, n'a pas été un enfant dont on s'est beaucoup, beaucoup occupé.
Alors, on va faire une pause. Et puis, ensuite, on entendra aussi, d'ailleurs, puisque Margot Agnès nous a trouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL un papier de Jean-Michel Bézina, à l'époque, qui suivait le procès pour RTL, et où on entendra ce que disent les experts et les psychologues appelés à la barre. Et puis, on verra avec vous quelles clés on peut trouver dans l'enfance et la jeunesse de Francis Holm pour, sinon, expliquer, tout au moins peut-être comprendre un peu comment il a basculé dans le crime.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous sommes en compagnie d'Agnès Grossmann et parlons de cette enquête qu'elle a réalisée à propos de l'enfance et de l'adolescence, de l'histoire du début du parcours dans la vie de 8 grands criminels parmi les pires, quoi, des tueurs en série français. Et là, on parle de Francis Holm. On va continuer à parler de lui. On va revenir tout à l'heure sur la mort de sa mère, mais on va revenir aussi sur cette association étrange, sur le fait qu'il lui faille toujours quelqu'un avec lui dans beaucoup de des meurtres. On va écouter d'abord un document RTL du 28 septembre 1995, encore un procès pour Francis Holm, cette fois devant les assises de Moselle, et c'est pour le meurtre d'une jeune fille, Laurence, qui a été tuée en mai 1991. Et les experts psychiatres et psychologues viennent s'exprimer à la barre sur la personnalité de l'accusé, et vous allez l'entendre, Jean-Michel Bézina, qui suivait le procès pour RTL, nous expliquer que ce portrait était bien noir.
Psychiatres et psychologues ont brossé de Francis Holm un portrait des plus noirs. Intelligence médiocre, instable, impulsif, fier de lui, manipulateur, satisfait de la publicité faite autour des crimes qui lui sont reprochés. Pour un des experts, Holm est incurable, son état n'étant pas du ressort de la psychiatrie. Demeure bien entendu l'anomalie chromosomique dont il souffre, mais pour les experts, le syndrome de Klinefelter, qui se traduit par une hypertrophie des testicules, peut avoir contribué à son comportement, mais n'en est aucunement la cause. Francis Holm est aussi, pour les experts, un séducteur, un voyeur, qui exploite la perversité de son compagnon du moment. Les faits qui seront évoqués ce matin leur donneront raison. Holm n'a-t-il pas poussé Michel Guillaume à violer sa jeune cousine Laurence ? Holm l'admettra sûrement, mais refusera bec et ongles, son avocat l'a déjà annoncé, d'endosser le terrifiant habit du meurtrier.
Alors comment on peut expliquer ça, Agnès Grossmann, donc le fait qu'il lui faut... parce que c'est pas le complice au sens habituel du terme complice, quoi.
Non, alors les psychiatres en fait soulignent plusieurs choses. D'abord sa capacité à trouver quelqu'un qui va l'aider à commettre ce crime, parce que tout le monde n'est quand même pas capable de trouver un crime. Et ça, c'est la grande finesse, si je puis dire, et la grande dangerosité aussi de Francis Holm. Ça veut dire qu'il a une espèce de sixième sens qui fait qu'il va trouver un complice, et il ne s'est jamais trompé.
Il sait que ce complice va passer à l'acte.
Absolument.
Non seulement il va lui permettre de passer à l'acte.
Voilà, et il ne s'est jamais trompé. C'est très étonnant quand même. Ouais. Donc vous voyez, il a quand même cette intelligence qui est peut-être une malignité, en tout cas il sent à qui il a affaire. Et en fait, il a besoin d'un deuxième pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour assumer la partie sexuelle de l'acte, qu'il est incapable lui-même d'assumer. Et en plus, alors ça c'est une explication des psychiatres, c'est que Francis Holm a souvent été coincé entre sa mère et son père qui se battaient aussi, et il se mettait un peu comme Patrice Allègre, il s'interposait entre les deux pour protéger sa mère, il n'avait jamais le dessus. Un jour il s'est interposé face à son père l'a pris, l'a descendu à la cave, l'a accroché avec les poignets au plafond,
et l'a
fuité avec une ceinture. C'est épouvantable. Il avait même été, il aurait même fallu porter plainte. Les médecins voulaient qu'on porte plainte.
La mère
ne l'a pas fait. Donc la mère ne le protégeait jamais non plus.
Et alors qu'il l'idolâtre, on l'a dit tout à l'heure.
Mais idolâtrer, c'est pas forcément voir la réalité. Pourra peut-être y revenir. Donc ce que les psychiatres pensent, c'est que pour lui, être dans une triangulaire, c'est recréer un peu la triangulaire qu'il avait avec ses parents, mais qu'en plus, ça lui permettra d'être à la fois spectateur, donc c'est-à-dire un peu l'enfant apeuré qu'il était, et en même temps tuant, de reprendre le dessus sur ce père qu'il n'osait pas affronter, et donc le crime lui permet finalement de reprendre le dessus, et d'ailleurs chaque crime est pour lui, regonfle son ego, et pour lui un antidépresseur.
Oui, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans l'histoire de Francis Holm, c'est la façon dont il évoque ses meurtres, soit en racontant, en mélangeant les lieux, les, enfin, c'est assez compliqué. Hein, c'est comme ça que Abgral avait compris qu'il s'était passé quelque chose à Montigny-lès-Metz. Mais bon, oui, ce qui me frappe, c'est qu'il dit jamais, il parle jamais. J'ai vu quelqu'un tuer quelqu'un. J'étais là. J'ai eu un pépin.
Et il a toujours des pépins. Il dit même d'une façon étonnante, partout où je passe, c'est étonnant. Partout où je passe, il y a des meurtres.
C'est étonnant.
Partout où je passe, il y a des meurtres.
Ouais. Et c'est ce qu'il dit pour Montigny-lès-Metz. Hein. Il dit que il passait, que les enfants lui ont jeté des pierres, et puis qu'il est repassé, qu'ils étaient morts, etc. Quoi.
Et en fait, il dit plein de choses. Voilà. Ouais.
Alors, je reviens sur la mère, mais d'abord, en ce qui concerne Francis Holm, puis peut-être qu'on peut partir de là pour voir ce qui peut lier ou pas l'enfance de ces 8 criminels que vous avez étudiés pour votre enquête. Sa mère, donc, meurt d'un cancer, on l'a dit, en 1984, en octobre, je crois. Un mois après, il tue. C'est son premier meurtre.
Oui, il est parti sur les routes, hein, déjà. Oui. Mais en fait, la mort de sa mère est le début de sa dérive. Il le reconnaît lui-même. Mmh. Et en fait, il le dit aussi, ça a fait boum dans sa tête. Il adorait sa mère. Hein. Il a voulu se faire enterrer avec elle.
Il a voulu suicider aussi. Hein,
Il s'est suicidé, ouais. Il a fait une tentative le soir même. Il a refait une tentative un an après, à la date anniversaire. Francis Holm est quelqu'un qui se fait beaucoup de mal lui-même. Il se scarifiait dès l'âge de 16 ans.
Il buvait, là, pour l'anniversaire de sa mère. Il boit une bouteille.
Il a fait un coma, il la casse
la bouteille et il se la serre avec les tessons. Quoi,
Alors, il faut dire aussi que cet alcoolisme, il le tient de sa mère qui était une femme très alcoolique et très dépressive. Et en fait, Francis Holm idolâtre sa mère qui était peut-être une femme fragile et paraît-il gentille, mais qui malheureusement ne s'est pas très bien occupée de lui non plus.
Et pour les autres?
Et bien pour les autres aussi.
Les autres, en fait, la mère tient une place vraiment importante.
Oui, la mère, pour nous tous, tient une place très importante, bien parce sûr. Que finalement, c'est d'abord la branche sur laquelle on est assise. Et malheureusement, pour certains, c'est une planche un peu pourrie. Mais ce qui est étonnant dans les tueurs en série, c'est que c'est tous des gens qui ont adoré leur mère. Mais les enfants adorent facilement leur mère. Parce qu'ils ont besoin narcissiquement de penser que la personne qui les a mis au monde les aime. Mais en fait, donc eux, ils se rendent compte que ben c'est pas tout à fait ça, que leur mère peut-être ne les aime pas ou ne les investit pas ou ça se passe pas comme ils voudraient que ça se passe. Ça les fait terriblement souffrir, mais c'est une souffrance qui est informulable. Donc elle est plongée à l'intérieur de leur corps et ça devient un petit peu la boîte de Pandore. Et ça, ils ont tous en commun les tueurs en série. Et à un moment donné, ils vont rencontrer une femme ou quelqu'un qui va leur rappeler leur mère et paf.
Voilà, et paf, et c'est ce que vous expliquez très bien dans ce livre. Je vous remercie beaucoup, Agnès Grossman, d'avoir accepté notre invitation. Et vous publiez donc l'enfance des criminels dans la collection de poche chez Point Crime. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand, à mon avis, dans quelques secondes.